effectivement, nous sommes, les uns et les autres, nous sommes, nous devons être des chercheurs de Dieu. Dieu a tout mis à notre disposition, il s'est rendu accessible, mais il doit y avoir cet élan de notre âme, cette aspiration, cet investissement personnel, intérieur, un investissement de cœur qui va se traduire dans aussi un agenda bien géré, une vie bien structurée, bien disciplinée, pour que je puisse vraiment me consacrer à ce que la Bible me demande, chercher Dieu. Et nous sommes vraiment appelés, comme Seb l'a dit dans sa prière, à prendre possession de ce que Dieu est. Il s'est rendu accessible, il a tout mis à notre niveau, tout mis à notre portée, mais il ne fait pas de nous des assistés. Et on a quand même cette démarche, cet élan de cœur, oui, il met tout à disposition, mais il faut quand même le chercher, parce que Dieu ne fait pas de nous des assistés, il fait des hommes et des femmes qui savent quelle est la valeur du royaume de Dieu, et oui, le royaume de Dieu est bien plus précieux que tout, bien plus légitime que tout, et il vaut mon investissement de cœur, mon énergie, mon temps, il vaut que j'y dépense ce qu'il y a à dépenser, parce qu'il n'y a rien de plus légitime, de plus important et de plus grand et de plus précieux que le royaume de Dieu. C'est le trésor caché dans le champ, c'est la perle de grand prix. Nous sommes, vous et moi, nous sommes des chercheurs de Dieu. Et j'aimerais ce soir faire avec vous une lecture dans le psaume 63, on va tout lire, c'est un psaume assez court, mais qui est très intense et extrêmement riche. 12 versets, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, parce que ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, et mon âme sera rassasiée de mets gras et succulents. Et c'est avec des cris de joie sur les lèvres que ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi chaque veille de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Ceux qui cherchent à m'ôter la vie, ils iront dans les profondeurs de la terre, ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, mais le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par Dieu s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Ce texte, pour moi, est une des perles de l'Écriture. C'est un texte que j'affectionne particulièrement, qui me touche beaucoup et qui m'enseigne beaucoup. Chaque fois que je le relis, que je le remédite, il me donne toujours des choses nouvelles. C'est un texte extrêmement simple, mais extrêmement profond. Le contexte, il est simple, frères et sœurs, vous l'avez lu comme moi, au moment où David écrit ça, il est en manque de tout. Humainement parlant, David est dans le désert, et donc il manque de tout. Il est dans le désert de Juda, le contexte direct est à relier avec 2 Samuel 15, c'est sa fuite dans le désert de Juda à cause de la rébellion d'Absalom. Et Absalom, on le sait, a préparé avec le proche conseiller de David, il a préparé ce coup d'État. Oui, on peut appeler ça comme ça, c'est un coup d'État, parce qu'il en veut non seulement au trône de David, il veut le prendre et en plus il veut la mort de son propre père. David est obligé de prendre la fuite dans le désert de Juda, il est victime d'une injustice. Il n'a rien fait pour être dans le désert, ce n'est pas de sa faute, il n'a pas demandé à être dans le désert, il n'a pas demandé à ce qu'on lui fasse ça, il n'a rien fait de mal, il est victime d'une injustice et il se retrouve dans le désert. Le désert, c'est simple, dans le désert, il n'y a rien. Mais le vide, le manque, l'absence, le besoin, c'est pressant. C'est même très oppressant. Dans le désert, par définition, il n'y a rien. Le désert, c'est synonyme de rien. Le désert, c'est synonyme de mort, synonyme de manque. Il n'y a rien ni personne dans le désert, même Dieu. Vous avez remarqué, quand vous passez par des moments de vide, de creux, de manque, quelle que soit la forme de ce manque, hein, qu'il soit professionnel, sentimental, matériel, ce que vous voulez. Hein, vous avez remarqué comme dans le désert, même Dieu semble lointain, pour ne pas dire absent. J'ai bien dit semble. Même Dieu semble absent dans nos déserts. Alors bien sûr, il est là, il est toujours là. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a certainement pas rejetés. Dieu est toujours là, il est bien plus près que nous ne le pensons ou l'imaginons. Même si tu ne le sens pas, il est là dans ton désert et Dieu n'abandonne jamais. C'est nous qui abandonnons, mais lui, il n'abandonne jamais. Alors, juste quand même, avant qu'on entre dans le vif du sujet, deux, trois mots clés qui me sont venus comme ça à l'esprit, peut-être pour quelques frères et sœurs ce soir. La Bible me montre clairement que le désert n'est pas une fin en soi. Le désert, c'est pas mon cimetière. Le désert, c'est pas la fin. Le désert, c'est pas un jugement de Dieu. Le désert, c'est pas une punition. Le désert n'est pas pour les mauvais élèves spirituels. Non. Le désert est juste une étape. C'est un passage. J'ai mis ce mot « détour ». On apprend dans le livre de l'Exode que lorsque le peuple a été délivré de l'Égypte, Dieu a choisi volontairement de faire à son peuple littéralement un détour par le chemin du désert. Il y a des moments, frères et sœurs, on a du mal à en être conscient, mais le désert peut être une mesure de protection. Il y a des situations professionnelles désertiques qui sont des mesures de protection, parce qu'on pourrait aller se perdre, se fourvoyer je ne sais pas où. Il y a toutes sortes de déserts dans nos vies. Et le Seigneur dit dans l'Exode, « Si mon peuple voit la guerre, il va retourner en Égypte. » Il était sur le point de passer par une situation qui aurait eu raison de lui, et le Seigneur a dit, « Je vais lui faire faire un détour par le chemin du désert, afin qu'il ne voie pas la guerre et qu'il ne retourne pas en Égypte. » Il y a des moments, frères et sœurs, on a du mal à tout cerner, à tout discerner, à tout comprendre. C'est sûr que le désert a des bienfaits, on va en parler. Dieu poursuit des objectifs bénéfiques au travers du désert dans nos vies. Mais il y a parfois des moments où certains déserts, vous l'apprendrez peut-être que plus tard, mais ils sont protecteurs. Et le désert n'est qu'un détour. C'est une étape, c'est un passage, c'est une transition, c'est juste un chemin, c'est juste un détour. Dieu sait ce qu'il fait, il nous conduit et c'est une école parce que oui, dans l'école du désert, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Par conséquent, le désert n'est pas une fin, c'est juste un moyen entre les mains de Dieu pour m'amener plus loin. C'est Dieu qui nous y conduit, Dieu dit lui-même, au prophète Jérémie, en parlant de toute cette historique du désert, il dit « Je conduisis mon peuple dans le désert. » C'est moi qui ai conduit mon peuple dans le désert. Quand Jésus a été dans le désert, il est écrit littéralement après son baptême qu'il a été, littéralement, je cite, « il a été chassé dans le désert. » Il n'a pas été conduit dans le désert. Le texte grec dit « il a été chassé dans le désert. » Dans le livre du prophète Osée, livre dans lequel le Seigneur est obligé de se comparer à un mari qui a été délaissé, abandonné par une épouse infidèle qui court partout sauf aux pieds de son époux. Le Seigneur dit, il est obligé de le faire. Maintenant, je vais attirer mon épouse au désert et là, je vais enfin pouvoir parler à son cœur. C'est Dieu qui est au contrôle de tout ça. C'est lui qui nous cherche. C'est lui qui nous attire, c'est lui qui nous attend dans le désert. Le désert, c'est son moyen de nous arrêter. Le désert, c'est son moyen de nous arrêter, de nous parler, de nous rencontrer. C'est le moyen par lequel Dieu va nous chercher. Il va nous permettre, il nous cherche et il nous permet de le chercher. Le désert, c'est un moyen pour lui de nous permettre de le trouver. C'est dans le désert qu'il veut se laisser trouver. C'est dans le désert qu'il veut que nous le connaissions mieux. C'est dans le désert qu'il veut que nous puissions à nouveau communier comme jamais avec lui. C'est dans le désert qu'on trouve Dieu ou qu'on retrouve Dieu. Et j'aime beaucoup cette introduction de David dans le désert. Sa première réflexion n'est pas « Seigneur, pourquoi t'as permis qu'Absalom me fasse ce qu'il est en train de me faire? pourquoi il s'est passé ci, et pourquoi il s'est passé ça, et pourquoi ça ne s'est pas passé comme ci, et pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça. David est dans le désert, il est victime d'une injustice effroyable. La première chose qu'il dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche et j'ai soif de toi. » Je ne demanderai pas qui a dit ça dans son désert, parce que moi le premier, je ne lèverai pas la main, honnêtement. Savoir que Dieu est Dieu, c'est une chose. Mais trouver Dieu comme notre Dieu, c'est autre chose. Je vous ai dit hier, savoir qu'on appartient à Dieu, c'est une chose. Mais être près, auprès de Dieu, tout près de Dieu, c'est autre chose. Savoir que Dieu est roi, il n'y a pas de problème, tout le monde le sait. Mais à un moment, pouvoir dire « Dieu est mon roi », je sais que Dieu est le maître de toutes choses. Je sais qu'il est maître des temps et des circonstances. Je sais qu'il renverse et qu'il établit les rois. Je sais qu'il est le maître avec un M majuscule de l'histoire de toutes choses. Je sais. Mais entre dire « Dieu est maître de tout » et dire « Dieu est mon maître ». Et là, on rentre dans des dimensions et c'est dans le désert qu'on expérimente ce genre de choses. Et David, dans le désert, dans l'injustice, la première chose qu'il dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu !» Et dans le désert, je retrouve Dieu comme mon Dieu. Et je rentre dans une dimension plus profonde et sur certains aspects, je peux retrouver Dieu comme mon Dieu. La priorité dans le désert, c'est pas d'en sortir. La priorité, c'est même pas que mon besoin soit comblé. Puisque mon besoin, je le sais, dans la grâce de Dieu, dans le Seigneur, mon besoin est déjà pourvu. La priorité des priorités, c'est Dieu. La priorité, c'est pas mon besoin. La priorité, c'est lui. La priorité, c'est mon âme. C'est lui que je cherche, mon âme soupire après toi, c'est lui que je cherche et lui, il cherche mon cœur. La priorité des priorités dans le désert, ce n'est pas un besoin à combler, la priorité c'est un cœur à cœur avec Dieu. David n'a pas cherché à retourner à Jérusalem, il n'a pas cherché des méthodes, il n'a pas cherché une solution. Il ne s'est pas demandé comment est-ce qu'il pourrait bien faire pour récupérer son trône et quel plan il pourrait mettre en œuvre pour retourner à Jérusalem et récupérer son royaume. Il n'a pas cherché d'appui humain, il a cherché Dieu. Le désert, frères et sœurs, on n'en est pas conscient, c'est l'endroit rêvé pour chercher Dieu. C'est pas dans le tourbillon de ma vie et de mes activités, pour ne pas dire de mon activisme stérile, fatigant, improductif, terne, monotone et franchement pesant, que je vais trouver Dieu. Et dans le désert, merci Seigneur, c'est l'endroit rêvé. Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a personne. Parce que tu as des manques énormes. Il y a des gens qui disent toujours « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Et quand ils sont sur un lit d'hôpital une semaine, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? C'est la réponse à tes « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Dieu nous aime, mais il y a des moments où Dieu nous arrête. Il ne nous juge pas, il ne nous punit pas, mais Dieu nous arrête. D'accord? Quand l'appel de Dieu retentissait déjà fortement dans mon cœur depuis un an ou deux pour le ministère, je savais, avec Anne, on savait qu'en 2008 il allait se passer quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Et puis, j'étais policier, je travaillais dans la banlieue chaude, dans la banlieue parisienne, et je travaillais la nuit. Et puis, je sentais que, au bout de 10 ans de brigade de nuit, ça commençait à devenir quand même pénible, ça commençait à devenir lourd, je commençais à être fatigué, pas que physiquement, dans beaucoup de sens du terme, et puis je disais, ah Seigneur, franchement, ce boulot, il commence à me fatiguer. Seigneur, j'ai pas assez de temps pour toi. Seigneur, il va falloir que je rentre bientôt dans le ministère. C'est quand même gênant si je cours après des petits chiteux la nuit avec une arme à la ceinture. Alors que la journée, je suis censé prêcher ta parole. Je veux dire, ça me paraissait un petit peu compliqué quand même. Et ça commençait vraiment à me peser. Puis je disais, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, trouve-moi une solution. Seigneur, comment ça va se passer, Seigneur? j'avais des questions comme ça et je trouvais que j'étais trop fatigué, que j'avais pas assez de temps, que j'avais pas de ceci pour ma bille, pour ceci. Puis des fois, c'est vrai, on ne s'entend pas prier. On ne se rend pas compte, hein, c'est vrai. On ne se rend pas compte de ce qu'on dit à Dieu. Mais Dieu, il entend vraiment ce qu'on lui dit. Et des fois, nous, on ne fait pas le lien de cause à effet entre ce qu'on a demandé et ce qui nous arrive. Et dans les tuiles, je mets des grosses guillemets sur tuiles, ce qu'on appelle des tuiles dans l'existence, on ne voit pas la main de Dieu, on ne voit pas la réponse à notre prière. Je vous dis tout de suite, ça va se terminer avec une histoire d'argent. Parce que je sais que vous aimez les histoires d'argent. L'histoire, elle se termine par une histoire d'argent. Voilà. Et une fameuse nuit, j'avais un peu oublié la prière que j'avais faite au Seigneur, les prières que je lui avais faites. Et puis un soir, il y a une espèce d'uluberlu d'énergumène, j'ai fait tout ce que je pouvais pour lui parler, pour le calmer. Le gars, il était défoncé de chez défoncé. Et il commence à se lever, il nous fonce dessus. Et j'avais deux stagiaires avec moi, j'étais responsable d'eux. Et à ce moment-là, j'ai vu que le gars, il n'y aurait pas moyen de discuter avec lui. Et il a fallu que je le maîtrise. Et en le maîtrisant, et il a fallu que j'emploie la force, comme dit les textes de loi, la force strictement nécessaire. Voilà. J'étais vraiment en état de légitime défense. Mais dans l'altercation, je me suis bousillé la main. J'ai eu 5 mois d'arrêt. Je téléphone à mon pasteur. Je lui explique ce qui s'est passé. Il me dit « Ah, c'est génial !» C'est génial ce qui t'arrive, Steph. C'est génial. Le Seigneur t'a laissé encore la main gauche pour tourner les pages de ta Bible. Je voulais avoir du temps avec Dieu. J'étais crevé, j'étais ceci, j'étais cela. Et il fallait que je comprenne que c'était la façon... Dieu m'avait arrêté. Il m'avait stoppé. Et c'est vrai, j'avais une main complètement en vrac. Mais l'autre, elle était disponible. Et du coup, pendant 5 mois, j'étais à la maison, j'étais payé, parce que j'étais en légitime défense et j'étais en accident de travail, et j'ai pu chercher Dieu. Je vous ai dit que ça se terminerait par une histoire d'argent. Comme quoi, quand on cherche Dieu, on trouve tout. Les collègues, l'administration me dit, « Monsieur Brion, il faut absolument déposer plainte, vous comprenez, c'est inadmissible, c'est Louis XIV, etc. » Je dis « Non, il vous doit des sous, on peut le faire payer au tribunal, on va l'attaquer au pénal, on va l'attaquer au civil, etc. » Je dis « Non, écoutez-moi, si j'en ai fini avec tout ça, dans quelques temps je quitterai cette boîte, excusez-moi, non, je ne ferai rien de tout ça, je ne m'occuperai de rien, je ne veux pas en faire une histoire d'argent, je veux rien contre, j'ai rien contre ce brave homme, c'est un pauvre homme, j'ai compassion de lui, il a plein de problèmes, et de toute façon, il n'a pas un flèche. » Je sais qu'il ne paiera rien du tout, il n'a pas les moyens, il n'est pas solvable. Et l'administration, elle dit « Si, si, monsieur Brion, de toute façon, nous, on a un agent qui est en arrêt pendant 5 mois, on a 5 mois d'argent qui partent par les fenêtres, nous, on va déposer plainte. » Je dis « Administration, vous faites ce que vous voulez, moi, je m'occupe de rien. Je me suis occupé de rien. » L'administration a déposé plainte parce qu'elle voulait récupérer ses 5 mois de salaire inutile pour moi. Et... un jour, je reçois une enveloppe, j'ouvre l'enveloppe, et dans l'enveloppe, il y avait un chèque de 5 000 euros qui m'était adressé à moi personnellement, qui venait du fonds d'indemnisation des victimes. Dieu a tout prévu. Dieu sait. Et il y a des moments, Dieu nous arrête. Et on a des déserts sentimentaux. On a des déserts professionnels, des déserts affectifs, on a des déserts matériels, on a toutes sortes de déserts. Mais dans tous ces déserts-là, Dieu sait ce qu'il fait. Et si dans le désert, au lieu de chercher des réponses, des pourquoi, de chercher à se venger, je dis « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche !» Non seulement je vais trouver Dieu, mais je vais trouver tout le reste. Voyez, frères et sœurs, dans le désert... il n'est pas question de moi et de mon besoin. Dans le désert, il est question de toi, Seigneur. Et si vous regardez les 9 premiers versets, il est question de Dieu et de mon âme. Le problème humain, le problème terrestre, ce qui s'est passé, ça arrive seulement en deuxième plan, ça arrive qu'au verset 10, et ce sera très très vite expédié. Mais des versets 1 à 9, il est question de Dieu et de mon âme. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Même mon corps soupire après toi. Pour l'instant, on est toujours sur Dieu, on n'est pas sur nos problèmes. Ainsi, je te contemple, ça on en reparlera mardi prochain, je te contemple pour voir ta puissance, ta gloire, ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté, c'est ce que Dieu est par nature. Donc c'est qui tu es, Seigneur, ça vaut mieux que moi. Il est question, ici, c'est comme si David disait, il est question de toi, Seigneur, il n'est pas question de moi. Ta bonté, ce que tu es, toi, ça vaut mieux que ma propre vie. Il n'est pas question de moi, il est question de toi. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élève mes mains en ton nom. Mon âme, pas mon corps, d'abord mon âme sera rassasiée. Avec des cris de joie, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi, je médite sur toi. C'est toi qui es, tu es mon secours. Mon âme est attachée à toi. Et c'est seulement à partir du verset 10 que de façon très courte, très succincte et pour ne pas dire très expéditive, David va simplement dire « Oui, c'est vrai, il y a des gens qui cherchent à m'ôter la vie. De toute façon, je paraphrase, j'ai peine pour eux, ils iront dans les profondeurs de la terre, leur sort c'est la perdition, ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. » C'est une façon de dire, je ne sais pas comment ça se terminera pour eux, mais ça se terminera mal pour eux. Et quand ça s'est mal terminé pour Absalom, vous savez, David, il n'a pas sorti le champagne, hein, il a pleuré. Hein. Il a pleuré hein, pour son fils. Hein. Comme quoi, nos enfants restent toujours nos enfants. Hein. Et le roi, ici en l'occurrence, c'est lui. Et le roi se réjouira en Dieu. Et la bouche des menteurs sera fermée, terminée. Ce qui me plaît dans l'attitude de David, c'est que David, c'est un homme qui sait rester lucide sur ses véritables besoins. David est un homme qui reste toujours lucide sur ses véritables besoins. Les véritables besoins, frères et sœurs, peu importe ce qui manque à l'extérieur, les vrais besoins sont toujours d'abord intérieurs, des besoins spirituels, des besoins d'âme, des besoins intérieurs. Jésus, pour contrer la première attaque du diable dans le désert, lui dit « L'homme ne vivra pas de pain, de matériel seulement, de terrestre, d'humain. L'homme ne vivra pas de matériel seulement, mais de toute parole. » Et la parole de Dieu, elle nourrit mon être intérieur, mon âme, ma vie, mon cœur. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. David est un homme qui sait rester lucide sur ses véritables besoins. D'abord la vie de mon âme, d'abord la vie intérieure, c'est de ça qu'il est question. C'est là que vont se livrer les vrais combats. C'est là que je remporterai des victoires à l'intérieur avant l'extérieur. C'est là que je vais être nourri et rassasié premièrement. Mon âme sera rassasiée de mes gras et succulents. Oui, je manque d'un fils. Oui, je manque de femme. Oui, je manque d'un trône. Oui, je manque d'un royaume. Oui, je manque d'amour, d'amitié, d'affection, parce que je suis seul dans ce désert. Oui, je manque de tout. Mais mon âme, elle ne manquera jamais de rien. Mon âme sera rassasiée de mes gras et succulents. Je manque de tout, mais au moins je ne manque pas de Dieu. Si on pouvait éprouver, ressentir le manque de Dieu comme on ressent le manque du reste, on chercherait Dieu différemment dans le désert. Et il y a toujours, frères et sœurs, c'est un lien de cause à effet. Tous nos manques à l'extérieur, oui, c'est une occasion de voir la main de Dieu agir. Oui, c'est une occasion de faire une expérience nouvelle. Oui, c'est une occasion de mettre sa foi en action, etc. Oui, d'accord, mais c'est aussi une occasion de comprendre et de ressentir, de voir à l'intérieur de nos vies quels sont les manques intérieurs. Les manques à l'extérieur doivent révéler un manque intérieur qui est le manque de Dieu. Eh bien, je vais être honnête avec vous. Il y a eu des périodes de ma vie, Dieu ne me manquait pas autant que mon boulot. Dieu ne me manquait pas autant que mon besoin affectif. Dieu ne me manquait pas autant que. Il y a des tas de choses qui nous manquent. Et Dieu, lui, est-ce qu'il nous manque? Est-ce que vous avez déjà dit à Dieu, tu me manques, Seigneur, tu me manques? David savait discerner ce qui était vraiment important. Est-ce que vous savez faire la différence entre l'urgent et l'important ? Ça vous dit quelque chose, ça ? Est-ce que vous faites la différence entre l'urgent et l'important ? C'est deux choses totalement différentes. Dans le désert, on a toutes sortes de besoins. Le besoin, c'est humain. Le besoin, quelle que soit sa forme, le besoin, il nous met une pression intérieure, même une oppression. Ça vous tord le ventre, ça vous coupe l'appétit. Vous ne voyez plus que ça, vous ne pensez plus qu'à ça. Le désert nous met une pression terrible. Et là, les besoins nous mettant la pression, on est dans l'urgence. J'ai vite, vite, très très vite besoin d'un conjoint. J'ai vite, 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 quand quelqu'un n'a pas de travail, vous avez une pression et le besoin de travail devient une urgence. Parce que derrière, vous avez une famille. Et quand un frère passe, alors qu'il est charge de famille, qui passe par une période de chômage, ça lui met une pression. Et là, dans le désert, il me faut un travail. Vite, 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 vite. Il y a des factures à la fin du mois, il me faut un travail, c'est tout de suite. C'est urgent. Et pourtant, ce n'est pas le plus important. Parce que tous mes besoins, je sais, ils sont déjà pourvus en Dieu. C'est ça qu'il faut que je comprenne. Les besoins extérieurs, terrestres, matériels, provoquent de l'urgence en nous. Beaucoup d'oppression, beaucoup de mal-être, beaucoup d'inquiétude. Pourtant, ce ne sont pas les plus importants, bien qu'ils soient légitimes. Oui, ils sont légitimes. Est-ce que Dieu ne serait pas au moins autant légitime que mes besoins légitimes ? Oui, le travail, c'est légitime. Mais, excusez-moi, Dieu, il n'est pas légitime, lui ? Oui, ma détente, mes vacances, mes loisirs, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me changer la tête, de m'aérer les idées. Oui, j'ai besoin, c'est légitime, mais Dieu, ce n'est pas légitime ? Est-ce que Dieu n'est pas important, même plus important que ce que j'appelle important, moi ? David restait toujours lucide sur ses véritables besoins. Il savait distinguer l'urgent de l'important. L'urgent, oui, ben c'était son trône, c'était son royaume, c'était de retrouver sa femme, c'était de retrouver ses amis, de retrouver son peuple. Je vous l'ai dit, il manquait de tout à ce moment-là. Mais il ne s'est pas laissé avoir par l'urgent. Il a saisi où était vraiment l'important. Et il a réalisé, il a exprimé aussi son manque de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, dans la prière, bien sûr, hein, alors il faut le faire, dans la prière, nous pouvons exprimer à Dieu toutes sortes de besoins, nous pouvons lui exprimer tous nos besoins, mais souvent, nous limitons Dieu, et nous nous limitons nous-mêmes à des besoins extérieurs. Alors qu'il y a bien plus à trouver que la réponse à mon besoin, qui encore une fois est légitime et qui est tellement légitime qu'elle est déjà la réponse prévue dans le cœur de Dieu. C'est pour ça que je dis, quand j'ai trouvé Dieu, j'ai tout trouvé. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de priorité et de recherche. Et souvent nous limitons Dieu et par conséquent nous limitons nous-mêmes à des bénédictions terrestres ou matérielles. Et souvent, c'est humain, hein, on est tous pareils, je le redis, souvent l'urgent va occulter ce qui est vraiment important. L'urgent va s'ériger devant nos yeux, l'urgent va nous empêcher de discerner ce qui est vraiment important. Ben moi, quand je vois David, je suis impressionné qu'un homme à qui il manque tout, absolument tout, ne se trompe pas de combat, ne se trompe pas de recherche et reste parfaitement lucide sur ce qui est important en laissant l'urgent de côté. Quand nous laissons l'urgent nous empêcher de discerner l'essentiel, on ne sera pas dans cette dynamique de cœur, on ne sera pas dans cette recherche de Dieu, cette dynamique de cœur qu'avait David. Et qu'est-ce qui se passe quand l'objectif de Dieu n'est pas atteint dans mon désert ? Eh bien, je ne sors pas du désert. La bonne nouvelle, c'est que le désert n'est qu'une école. Ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'un passage.
ce n'est qu'un détour. La mauvaise nouvelle, c'est que tant que tu n'auras pas appris ce que tu as à apprendre, tu ne sortiras pas de l'école. Tu resteras à l'école. Tant que je n'aurai pas appris ce que j'ai à apprendre, tant que l'objectif de Dieu ne sera pas atteint dans mon désert, dans ma situation, dans mon manque, je ne sortirai pas du désert. Des fois, on se dit, mais ah Seigneur, mais ça fait tellement longtemps que ça dure ce truc. Seigneur, pourquoi je n'ai pas encore trouvé ça? Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas encore comblé là? Pourquoi tu n'as pas encore donné ça? Seigneur, quand même, tu es Dieu. Attends, Seigneur, mais tu ne vas pas me faire croire que tu prends plaisir à me voir souffrir dans telle ou telle ou telle situation. Non, évidemment, Dieu ne nous prend pas plaisir à nous voir souffrir. Il souffre avec moi. Il a compassion. Compassion. Il souffre de la souffrance. Même quand je suis responsable de cette souffrance, il arrive à souffrir de ma propre souffrance. Alors, bien sûr, il n'a aucun plaisir. Dieu a des objectifs. Il a des buts bien établis pour nos vies. Dieu a des objectifs élevés pour nos vies en termes de qualité de vie intérieure. Et souvent on est là, on dit « Pourquoi j'en suis encore là? Pourquoi c'est pas réglé ?» En d'autres termes, « Pourquoi je suis pas sorti de mon désert ?» Je fais de procès d'intention à personne. Il faut aussi parfois se poser les vraies questions. Et au lieu de se dire « Pourquoi je suis pas encore sorti de ce désert ?» Peut-être se demander humblement au pied du Seigneur, mais au fait, Seigneur, quel objectif tu t'es fixé pour ma vie au travers de ce désert? Au fait, c'était quoi l'objectif? Pourquoi tu as permis que je passe par là? C'était quoi l'objectif? Et puis, Seigneur, finalement, est-ce que ton objectif, il a été atteint dans ma vie? Je suis sûr qu'on sortirait plus vite de certains déserts. Parce que Dieu est clair. Le désert pour le peuple, ce n'était pas 40 ans. C'était 40 jours. S'ils y sont restés 40 ans, c'était de leur faute. Et quand les objectifs de Dieu ne sont pas atteints, frères et sœurs, on ne sort pas du désert. Alors, comme David, je veux être cet homme intelligent qui cherche Dieu. Je veux être docile. Pardon, c'est... Vous me connaissez, il n'y a rien de méchant. Dans le désert, je t'en supplie, dans ton désert, tais-toi. Dans nos déserts, il faut se taire. Dans ton désert, calme-toi. Arrête de t'agiter. Arrête de chercher tout et n'importe quoi. Dans le désert, tais-toi. Le désert, c'est le lieu idéal pour se taire et pour écouter. Et quel que soit le domaine, que ce soit le domaine de la guérison divine, que ce soit le domaine des relations affectives, que ce soit le domaine du travail, peu importe, je vous l'ai dit, peu importe la forme de mon désert, si je suis dans un désert, quelle que soit sa forme, on ne peut pas parler et écouter en même temps, ça ne marche pas. Le Seigneur nous a donné une bouche et deux oreilles. Et comme on n'a pas encore compris qu'il faut deux fois plus écouter que parler, il y a des déserts pour nous aider à nous taire et à entraîner l'écoute. Et dans le désert, la première chose, c'est de se calmer, c'est de se taire, c'est d'écouter, c'est de lever les yeux plus haut, et puis de commencer à devenir actif dans cette recherche de Dieu. Je vais devenir coopératif, mais je veux être participant, je veux être coopératif, je veux trouver ce qui est important, je veux arrêter de serrer le poing intérieurement, puis de dire, mais c'est long, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi? Mais... Il y a des déserts dans lesquels le Seigneur nous conduit. Il y a des déserts que l'on entretient nous-mêmes. Et au lieu de toujours demander à Dieu le « pourquoi » en un seul mot, « pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi je suis là ? Et comment je vais m'en sortir ?» Si au lieu de demander à Dieu « pourquoi ?» Je lui demandais le pour quoi en deux mots. Non pas pourquoi, la raison. La raison, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Jésus, ton maître, a été dans le désert. Qui es-tu pour espérer ne pas y aller? Je marche dans l'empreinte de ses pas. Pourquoi? Mais parce que tu es disciple de Jésus, tu vas aller dans le désert, tu vas perdre de toi-même et tu vas gagner de lui. Pourquoi je suis dans le désert? Il y a été. J'y vais. Non, pas le pourquoi, mais le pour quoi. Dans quel but, Seigneur, dans quel objectif? Qu'est-ce que tu t'es fixé comme but, comme objectif pour ma vie dans cette situation? Seigneur, je veux être cet homme intelligent qui sait rester lucide sur ses véritables besoins, qui sait distinguer l'urgent de l'important, cet homme qui va arrêter de chercher tout sauf Dieu et qui va commencer à chercher Dieu sauf tout. Oui, David, je termine avec ça. On ne peut pas tout voir ce soir. Oui, David a des besoins considérables, des besoins criants, des besoins urgents. Mais pourtant, il a compris que ces besoins-là ne sont même pas encore les plus importants. Oui, David manque de tout, mais spirituellement parlant, il ne manque de rien. À l'extérieur, rien n'est réglé. Mais à l'intérieur, il est complètement vainqueur. Et on sait très bien, non pas par le psaume 63, mais par la suite des textes des livres de Samuel, que bien évidemment, David est rentré à Jérusalem. Bien évidemment, David a retrouvé son royaume, il a retrouvé son trône, il a retrouvé les siens, il a été rétabli, etc., etc., etc. Bien sûr ! Mais par ce passage du désert, il a accepté de perdre pour un temps, et avant de retrouver tout le reste, il a été enrichi de Dieu. Et parce qu'il a trouvé Dieu dans son désert, il a eu Dieu plus tout le reste. Et je disais encore à quelqu'un cet après-midi en entretien, chaque fois que par la grâce de Dieu je suis passé par un désert, j'en suis ressorti plus fort, j'en suis ressorti plus grand, j'en suis ressorti enrichi, j'en suis ressorti plus béni. J'ai perdu d'un côté, mais j'ai énormément retrouvé de l'autre. Mais dans le désert, je veux être cet homme intelligent qui cherche Dieu. Et dans mon désert, je veux retrouver Dieu comme mon Dieu. Amen.